Tout feu, tout femme, le magazine des femmes, mais pas que, sur Couleur FM 97.1 avec Véronique et Valérie. Bonjour et bienvenue dans l'émission Tout feu, tout femme. Alors aujourd'hui, nous abordons un sujet grave et d'actualité qui concerne un certain nombre de femmes en France, la violence faite aux femmes. Et oui, aujourd'hui encore, une femme sur trois est victime de violence au cours de sa vie. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Cécile Morgan dans notre émission. Bonjour Cécile.
Bonjour Valérie.
Alors Cécile, vous avez 39 ans, vous êtes mariée, deux enfants et vous êtes sage-femme hospitalière depuis 16 ans sur Bourgoin-Jallieu. Parlez-nous de vos engagements dans le domaine des violences faites aux femmes et des droits de la femme, Cécile.
Oui, eh bien mon engagement politique m'a permis, grâce à un mandat municipal, de travailler sur la vaste thématique du droit des femmes. Donc dans mon champ d'action, on peut citer l'accès à la parité femmes-hommes, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les mariages forcés, les mutilations sexuelles, mais aussi la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales, notre thématique de ce jour. Et de plus, il est vrai que ma profession me permet d'accompagner au quotidien les femmes tout au long de leur vie, que ce soit de leur première consultation pour une contraception, lors de leur suivi de grossesse ou alors lors de leur suivi gynécologique. Et malheureusement, je suis le témoin de nombreuses souffrances au sein des couples.
Malheureusement. Donc, effectivement, vous êtes à même de pouvoir nous éclairer sur un certain nombre de points et de nous conseiller et nous donner aussi des informations sur le sujet du jour. Alors, avant tout, on ne peut pas échapper à cela. On va parler chiffres pour comprendre un petit peu l'ampleur du phénomène. En France, 216 000 femmes sont victimes de violences conjugales.
Oui, tout à fait. Et au niveau du seul département de l'Isère, on en dénombre 500, et ce qui correspond à 30% de plus en 10 ans.
Énorme.
Il faut aussi savoir que sur ces femmes victimes de violences conjugales, seules 16% portent plainte, un tout petit peu plus d'une sur 10, et que très malheureusement, la violence conjugale tue une femme tous les 2 jours et demi en France, et les meurtres commis par les partenaires ou ex-partenaires représentent 50% de l'ensemble des homicides sur les femmes.
Ça fait frémir.
Un chiffre éloquent.
Ça fait frémir. Et sans parler du harcèlement subi par les femmes dans la rue aussi, parce que ça, c'est aussi une forme de harcèlement, sans pour autant qu'elles aient une attitude physique ou vestimentaire qui puisse inspirer de telles réactions, régulièrement, maintenant, dans la rue, on est quand même très souvent ennuyé par des hommes qui se croient tout permis par rapport à
ça. Les attitudes machistes sont en augmentation, effectivement.
Ce serait intéressant d'essayer un jour de comprendre pourquoi.
Effectivement.
Bon. C'est donc là un vrai problème de société. Il y a manifestement un réel besoin d'éduquer les hommes dès leur plus jeune âge. Ça ne se fait pas à 16 ans. 16 ans, c'est trop tard. Et leur apprendre à tenir une attitude correcte vis-à-vis de la femme. Alors, nous vous proposons d'écouter dans l'émission Tout feu, tout femme sur Couleur FM 97.1, L'Aigle Noir, chanté par Barbara. Une chanson qui, je dirais, résonne avec notre thème aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, cette chanson, ou pas d'ailleurs, cette chanson fait référence à la violence de l'inceste. Barbara aura donc supporté le comportement incestueux de son père pendant son enfance, et à l'âge de 10 ans et demi, à Tarbes, son père abuse d'elle. Sa jeunesse bascule, soudain, dans l'horreur, d'où personne, pas même sa mère, et ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, ne tentera de la sauver. Il recommence ensuite plusieurs fois, elle multiplie les fugues en vain, et un jour en Bretagne, n'en pouvant plus, elle se précipite à la gendarmerie où son père vient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. Là aussi, c'est un constat. L'affaire est classée, malheureusement, et elle refusera d'évoquer le drame en public, sauf dans ses mémoires. Écoutons Barbara, merci.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir, lentement. Les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, sans un bruit sa mantelle, comme tombée du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché ma joue. Dans ma main, il a glissé son cou. C'est alors que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dit l'oiseau, on dit emmène-moi, retournons au pays d'autrefois. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, pour cueillir en tremblant des étoiles, des étoiles. Comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, sur un nuage blanc. Comme avant, allumer le soleil, être faiseur de pluie et faire des merveilles. L'aigle noir dans un bruissement d'ailes brise son vol pour gagner le ciel. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant à nul part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Je m'étais endormie. Quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Surgit un aigle noir. Un beau jour, une nuit, près d'un lac, endormi. Quand soudain, il venait de nulle part, il surgit l'aigle noir. Un beau jour,
voilà, merveilleuse chanson, hein, Cécile, ce qu'on disait. C'est magnifique. Il y a bien sûr différentes sortes de violences faites aux femmes. Elles peuvent prendre bien des formes et la liste que nous allons énumérer, la triste liste que nous allons énumérer, est loin d'être complète. Toutefois, les femmes qui vivent cette violence ne séparent pas nécessairement leur expérience en catégories distinctes et de toute façon, in fine, il faut dire que le résultat catastrophique sur la personne qui les subit, eh bien malheureusement, il est là. Alors, des études ont répertorié 11 violences récurrentes. On parle de violences physiques, c'est-à-dire tout contact physique non désiré et qui n'est pas nécessaire, causant des douleurs physiques, de l'inconfort ou des blessures. Alors, j'aime bien le mot inconfort dans la définition aussi. Oui. Par exemple, gifler une femme, lui donner des coups de pied, la retenir physiquement, tenter de l'étrangler ou limiter ce qu'elle mange aussi, par exemple.
Oui, tout à fait. On va aussi distinguer les violences psychologiques ou émotionnelles, Rappelons que depuis très récemment, les violences psychologiques sont retenues dans le cadre de la loi. Hein, donc ça, c'est une nouvelle avancée, toujours très difficile à prouver juridiquement. Donc, on parle de tout geste qui peut provoquer la peur, qui réduit la dignité ou l'estime de soi, ou encore le fait d'infliger intentionnellement un traumatisme psychologique à une femme, comme crier, l'intimider, refuser de lui parler, jouer avec ses émotions, la dégrader, la traiter comme un enfant, revenir à la maison en état d'ébriété. Hein, c'est vrai que l'alcool et la toxicomanie sont aussi des effets pervers sur les violences conjugales.
Ouais.
Et puis, lui refuser son soutien et son aide pour s'occuper de son enfant,
son bébé,
malheureusement.
Son enfant. Et puis, la violence sexuelle. Toute activité sexuelle non désirée ou forcée, contact sexuel non désiré, relation sexuelle forcée, relation sexuelle forcée avec d'autres personnes, proférer des menaces pour obtenir une relation sexuelle, forcer une relation sexuelle alors que la femme est malade, qu'elle vient d'avoir un enfant ou une opération, traiter la femme comme un objet sexuel et refuser qu'elle ait recours à la contraception ou la forcer à le faire.
Tout à fait. On parlait tout à l'heure des agressions verbales dans la rue. Donc la violence verbale se traduit par le fait de faire des commentaires négatifs, déplacés, embarrassants, offensants, menaçants également ou dégradants pour la femme. La traiter de tous les noms, faire de fausses accusations, mentir ou dire une chose quand on en pense une autre. Enfin, liste non exhaustive.
Voilà. Et puis la violence financière, tout comportement qui réduit ou élimine l'indépendance financière, ça arrive encore énormément ça, pour que le pouvoir de décision en matière d'argent soit réduit pour la femme. Prendre son argent, lui forger sa signature, retenir de l'argent, dépenser l'argent en alcool, en drogue, au jeu ou pour obtenir des services sexuels, garder secrètes les finances de la famille, enfin bon, il y a une multitude de violences financières qui se font.
Oui, absolument. Ouais. Le harcèlement criminel aussi, bien connu sous le nom de menace de mort récurrente. On peut le définir comme une façon d'agir envers une certaine personne qui porterait toute personne raisonnable à avoir très peur, bien sûr.
Et la violence sociale, tout comportement qui aurait pour conséquence d'isoler ou de détourner une femme de ses amis ou de sa famille, c'est-à-dire avoir le contrôle de ce qu'elle fait, hein, qui elle voit, à qui elle parle, pas faire de messages, la traiter comme une servante, lui faire une scène en public, enfin bon, ce genre de...
Voilà, une autre thématique, c'est la violence religieuse ou spirituelle, c'est-à-dire toute tactique pour exercer un pouvoir de contrôle imposé à une femme sur sa spiritualité ou sur sa pratique religieuse et se servir également de la religion pour justifier la violence ou la domination sous prétexte de préceptes religieux. Voilà, c'est aussi dramatique.
Et ça se fait dans toutes les classes sociales, on va dire. L'utilisation aussi des enfants, ça c'est très très utilisé. Blesser les enfants ou menacer de le faire, c'est-à-dire prendre en otage, en fait, hein, l'enfant. Enlever les enfants dans le but de contrôler une femme. S'arranger pour qu'elle se sente coupable envers ses enfants. Se servir des enfants pour passer ses messages. Ça aussi, c'est autant d'impact psychologique destructeur.
Bien sûr, tout comme la violence environnementale, ce qui se joue au quotidien pour que la femme soit terrorisée et cloîtrée dans sa peur. Claquer les portes en permanence, donner des coups de poing dans les murs, blesser les animaux de compagnie, avoir une conduite automobile trop rapide. Enfin bon, il y a des tas aussi de sujets...
Et puis aussi l'utilisation d'un privilège ou d'un statut social, c'est-à-dire faire des gestes ou des commentaires qui suggèrent que la femme est un être inférieur parce qu'elle vient d'un milieu socio-économique différent. Alors on peut servir de son statut social ou de sa richesse pour cacher ou nier ses comportements violents, se servir de sa richesse pour engager une femme dans des procédures légales coûteuses ou pour manipuler ou prolonger des procédures légales. Voilà. Ça fait quand même 11 typologies de violences. C'est quand même énorme. Alors, on va faire une petite pause musicale de nouveau sur Couleur FM 97.1, la radio de votre territoire dans l'émission Tout Feu Tout Femme. On écoute Cendrillon par le groupe Téléphone, choisi par Cécile aujourd'hui.
Cendrillon, pour ses 20 ans. plus jolie des enfants. Son bel amant, le prince charmant, la pointe sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans ce palais d'argent. Pour ne pas voir ton nouveau jour se lève, elle ferme les yeux.
Froid dans le dos, notre super groupe Téléphone, bon groupe français de rock. Alors nous disions en off qu'effectivement il n'y a pas que les femmes qui vivent la violence, mais aussi des femmes qui exercent une violence sur les hommes. On en a vaguement évoqué le...
Absolument, le ratio reste 90% sur les femmes, ouais, 10% quand même devient sur les hommes.
Mais on ne peut pas ne pas le dire.
Tout à fait.
Alors nous venons d'évoquer une série de violences faites aux femmes, mais parlons maintenant de ce que nous avons sur le territoire pour aider ces femmes, parce que le but de l'émission, c'est ça. On veut les soutenir dans ce combat, les aider à oser parler, et parce que c'est bien le souci dans ces cas de figure. Généralement, on n'ose pas parler, on ne sait pas où aller. Alors on va situer dans un premier temps la violence dans les milieux sociaux, Cécile.
Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que la violence dans les milieux sociaux peut s'exercer sur les femmes inactives. Alors de manière très effrayante, les chiffres qui ressortent, c'est qu'un fort pourcentage de retraités subissent des violences conjugales. Donc c'est un sujet là encore qu'on aborde très
tabou.
Peu.
Tabou.
Le tabou. Sur la violence chez les personnes âgées.
D'ailleurs, je ne le savais pas moi.
Voilà, oui, tout à fait.
Je n'imaginais pas.
suivi ensuite par voilà, les chômeuses et les étudiantes. C'est vrai que l'absence d'autonomie financière
réduit la femme.
Voilà, voilà. Est un facteur induisant des situations de violence. Alors là, pareil, des statistiques impressionnantes. Chez les femmes actives, ce sont les cadres, les catégories, ce qu'on appelle les CSP, catégories socio-professionnelles supérieures, qui sont le plus victimes de violences conjugales. Alors, comment l'expliquer ? Ce serait éventuellement des femmes qui sont plus dans la médiation, qui cherchent plus à instaurer le dialogue avec leur conjoint, bon, ce qui n'aboutit très souvent à pas grand-chose.
On espère toujours qu'en discutant, on arrivera à faire quelque chose.
Et puis surtout, un mot qui revient toujours, et d'autant plus chez ces cadres, c'est une certaine honte sociale qui maintient le secret de l'intimité. Elles ne dévoilent pas leur souffrance.
Ouais, elles ont peur de se plaindre à cause des représailles aussi, quelque part, et du regard de la société sur elles par rapport à...
Tout à fait, à leur situation sociale.
Donc, bon, à qui s'adresser pour être entendue et comprise dans ces cas-là ? On abordera cela tout à l'heure, mais en tous les cas, on donnera des pistes. Mais c'est vrai qu'il faut rompre l'isolement, on ne le dira jamais assez. À quel moment, Cécile, doit-on appeler la police face à un tel problème ? Comment est-ce qu'on va repérer ces femmes ? Parce que c'est souvent l'entourage qui s'en charge et il est souvent trop tard parce que la femme n'a pas souvent l'occasion de pouvoir téléphoner au moment où ça lui arrive.
Oui, alors absolument. Bon, après, chaque femme choisit elle-même le moment opportun pour effectuer des démarches. À mon sens, il est important de tirer la sonnette d'alarme dès les premiers signes ou actes de violence, car on sait qu'il existe ce qu'on appelle une spirale de la violence, qui se déroule en plusieurs phases. Donc, c'est d'abord l'escalade de la violence, où la victime est emmurée dans sa peur. Ensuite, il y a l'explosion qui se manifeste par les coups. Le troisième point est le transfert de responsabilité. Alors ça, c'est l'auteur des coups qui se positionne en tant que victime de sa compagne, qui aurait été le déclencheur de ces violences. Oui, mais elle l'a bien cherché. Voilà.
Elle a dit ça.
Voilà. À ma place, vous auriez fait pareil. Voilà. Et puis ensuite, on a ce qu'on appelle la phase de lune de miel, où l'auteur exprime ses regrets.
Ce qu'on appelle la réconciliation sur l'oreiller aussi, moins élégant.
Alors, il exprime ses regrets, il minimise les faits, et tout ça dans un but qui éventuellement permet à la victime d'espérer de retrouver l'homme qu'elle a aimé, et aussi de retirer sa plainte éventuelle.
Parce qu'elle y croit, elle l'aime. Bien souvent, elle l'aime.
C'est ça, c'est ça le problème. Mais c'est aussi pendant cette période de lune de miel que tous les soutiens qu'ont pu être les amis, la famille, les collègues, ou les voisins, du coup, ne comprennent plus l'attitude de la victime et désarçonnés, ils peuvent mettre en doute les paroles de la femme lors du prochain accès de violence. Donc,
elle perd sa crédibilité.
Discréditée, voilà, toujours, voilà. Ouais. Donc, au niveau du repérage, c'est vrai que la violence conjugale n'est pas toujours facile à déceler parce que la victime a tendance à dissimuler la vérité, on l'a déjà parlé, y compris à elle-même, bien sûr, et à minimiser la situation. Bon, en dehors des situations de crise, le repérage peut se faire grâce soit à une tierce personne, on en a parlé, les voisins, la famille, les amis, les travailleurs sociaux aussi, si la famille est dans un contexte socio-économique difficile. Alors, par le biais des enfants aussi, qui peuvent exprimer leur mal-être, soit auprès des enseignants, soit auprès des infirmières scolaires,
ça arrive aussi,
qui peuvent être de très bons relais d'informations. Et ensuite, par les professionnels de santé qui, eux, ont le devoir d'aborder le sujet devant toute patiente avec des traces de lésions traumatiques suspectes, devant des manifestations anxio-dépressives très récentes, ou alors aussi devant un partenaire extrêmement prévenant lors de la consultation et qui très souvent répond à la place de sa compagne pour la maintenir sous son contrôle.
Donc les médecins, n'hésitez pas à signaler, et mesdames surtout, n'hésitez pas à lancer des...
Voilà, il y a des relais,
des perches,
on est là pour vous écouter.
Alors les procédures judiciaires, elles sont souvent longues, c'est clair, et puis ces femmes, elles ont besoin d'une action rapide pour se mettre à l'abri, pour mettre un terme à cela et pour être prises en compte. Qu'y a-t-il sur le territoire pour cela ? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller ?
Donc au niveau des procédures judiciaires, il y a plusieurs choses. Déjà, si la femme ne veut pas déposer plainte pour des raisons qui lui sont propres, ne se sent pas le courage, etc., elle peut toutefois déposer une main courante au commissariat ou faire établir ce qu'on appelle un procès-verbal de renseignement judiciaire en gendarmerie. À savoir également que le procureur peut décider de lui-même, dans les cas les plus graves de violence, de poursuivre le conjoint sans dépôt de plainte. Ensuite,
à partir du moment où la police a signalé...
Voilà, devant toute tentative d'assassinat en général, voilà. D'autre part, si la femme dépose une plainte, il faut d'abord savoir que les services de police et de gendarmerie ont l'obligation de recevoir la plainte, même s'il ne s'agit pas du commissariat ou de la brigade de gendarmerie du secteur d'habitation. Oui. Donc ça, c'est
très
important.
Donc ça, on peut le faire n'importe où.
Et, évidemment. Ensuite, il y a une enquête et le conjoint violent est entendu, suivi d'une éventuelle garde à vue, selon la gravité des faits. Dans tous les cas, avec ou sans dépôt de plainte, avant toutes ces démarches juridiques, il est souhaitable de se faire établir par un médecin ce qu'on appelle un certificat de coups et blessures, CCB, oui, qui mentionne d'éventuels jours d'ITT, d'interruption temporaire de travail, et ceci même pour les personnes ne travaillant pas, oui, parce que ce sont ces jours d'ITT qui constituent une preuve juridique de la gravité des atteintes.
Ça, faut le savoir, parce qu'on n'a pas, on n'est pas forcément, effectivement, la plupart du temps, les gens ne travaillent pas, et on ne va pas forcément avoir l'instinct de... Donc c'est vraiment au médecin
tout
de prendre en charge.
Sensibiliser aussi les médecins. La déléguée départementale du droit des femmes a très récemment fait sur le Nord-Isère une sensibilisation auprès des médecins libéraux. Donc il y a un travail s'amorce avec les médecins des urgences, de l'hôpital également. Donc il y a beaucoup de choses à faire.
Ça bouge.
Bien sûr, ça bouge. Mais en aparté, je tiens aussi à souligner l'implication des services de police et de gendarmerie sur cette thématique, parce que c'est vrai qu'on connaît la fragilité des victimes lors du dépôt de plainte ou de main courante, et les équipes sont formées à une écoute spécifique et respectueuse. Chaque réunion de réseau de femmes victimes de violences conjugales, les équipes de police et gendarmerie répondent présentes, on sont vraiment très sensibilisées. Ouais. Voilà. C'est vrai que Valérie, j'aurais bien aimé également signaler lors de ces démarches un point essentiel qui est la mise en sécurité des femmes victimes de violences conjugales.
C'est impératif.
Voilà.
On va dire.
Parce que c'est vrai que toute femme partant précipitamment seule ou avec ses enfants a une solution de relogement. Mmh. Ça, il faut le savoir. Donc, elle peut passer par le 115 où elle peut bénéficier d'appartements de mise en sécurité. Donc, sur Bourgoin-Jallieu, ils sont gérés par l'association ALPA, qui est Accompagnement Logement Porte des Alpes, qui se situe avenue des Alpes, justement. Elle peut bénéficier d'appartements qui sont meublés avec de l'électroménager, du linge de maison. Donc, la femme peut partir de chez elle précipitamment, juste avec un petit sac, et elle aura de quoi vivre.
Tout sera dans le logement.
Voilà, pendant plusieurs semaines. À savoir que ce sont des appartements sécurisés, c'est-à-dire qui ne sont pas au rez-de-chaussée, qui sont en étage avec un interphone et un téléphone. Et seule l'association et la personne hébergée a connaissance de l'adresse.
D'accord.
Et a bien reprécisé que les enfants sont également accueillis dans ces logements.
Donc, il y a des possibilités de fuir en cas de violence extrême et de danger. Et n'oubliez pas ce numéro 115 pour toute personne qui en a l'utilité. Et puis l'entourage aussi, hein, n'hésitez pas à utiliser ce numéro. Même si vous avez l'impression que c'est pas, vous ne savez pas si c'est vraiment le bruit que vous entendez, si c'est vraiment ça ou pas, n'hésitez pas. De toute façon, s'il y a signalement, forcément il y aura un déplacement des forces de police et qui constateront oui ou non ce qui se passe.
Mais, 17, la
voilà.
Police.
Mais ne jamais se taire en tous les cas.
Ne jamais se taire.
On va faire un petit moment de détente musicale dans l'émission Tout Feu Tout Femme sur Couleur FM 97.1, la radio qui vous ressemble. On écoute Under the Bridge de Red Hot Chili Pepper que Cécile nous a choisi.
Now that is a lie.
Et les femmes violentées, elles se sentent souvent seules et elles ont l'impression que rien n'est fait pour les défendre. Elles ont souvent peur aussi de se plaindre à cause des représailles. Qu'est-ce qu'on peut leur dire, Cécile, à ce propos? Que doivent-elles faire dans ces cas-là? À qui s'adresser pour être entendues et comprises surtout?
Oui, c'est vrai qu'effectivement, les femmes victimes de violences conjugales se sentent isolées et en marge. Une des premières actions est bien sûr d'essayer de rompre cet isolement. Alors déjà, pour ce faire, je vous remercie vivement, vous les médias, de véhiculer ces informations essentielles pour une vraie prise de conscience de la part de ces femmes, dont le sentiment de culpabilité est énorme, hein, rappelons-le. Mais le sujet, à mon sens, a été quand même trop longtemps tabou. Et c'est vrai que je n'observe que depuis quelques années ce relais d'informations dans les médias.
Hein. C'est vrai.
C'est regrettable.
Parce que
mais
ça touchait à l'homme et que l'homme était le pilier de la famille. Hein. On en revient toujours au schéma familial qui a existé patriarcal pendant longtemps.
Alors, en France, il existe un numéro vert très important.
Notez bien.
On a parlé du 115 tout à l'heure. Là, c'est le 3919.
3919.
3919. C'est un appel qui est anonyme et gratuit, qui fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Ce numéro garantit une écoute, une information et en fonction des demandes, une orientation adaptée vers les dispositifs locaux d'accompagnement et de prise en charge. Ce n'est pas un numéro d'urgence. Hein. Le numéro d'urgence, c'est le 17, la police, ou le 115 pour l'hébergement d'urgence.
Mais là, c'est une plateforme d'écoute.
C'est une plateforme d'écoute gérée par des professionnels qui orientent au niveau départemental et local pour une meilleure prise en charge. Alors, au niveau local, justement, sur Bourgoin-Jallieu, pour les femmes qui n'ont encore pas trouvé les ressources et l'énergie pour quitter le domicile conjugal ou pour se lancer dans une procédure judiciaire, il existe ce qu'on appelle un accueil de jour qui s'appelle Voix d'elle, VOIXDE2LES, qui se situe au sein de ce qu'on appelle un CHRS, c'est un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui est géré par l'association ALPA, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, sur l'avenue des Alpes, à Bourgoin-Jallieu. Donc cet accueil de jour est ouvert tous les jours, de 9h à 17h. Il est équipé comme un petit appartement avec un canapé, une salle de douche, une buanderie pour faire une lessive, afin de permettre à ces femmes de retrouver en fait l'atmosphère d'un cocon sécurisé où elles peuvent se confier à des professionnels de l'association. Et donc cet accueil a plusieurs missions, déjà rompre l'isolement comme on en a parlé, les accueillir bien sûr et les soutenir psychologiquement, les accompagner, ça c'est très important dans leur démarche juridique, administrative,
oui, parce que là aussi, c'est
ou sociale.
C'est long, c'est compliqué.
C'est lourd, c'est sinueux. Et ensuite, les aider, elles et leurs enfants, à se reconstruire.
Ok. Alors, on sait que 45% des violences faites aux femmes se terminent par des violences physiques, sans parler des violences psychologiques. Alors, comment se reconstruire après de tels actes? C'est quand même pas simple. Ça met des années et des années, j'imagine.
C'est sûr que cette reconstruction identitaire est indispensable pour un retour à la vie normale. Le processus est bien sûr très long. L'aide d'un psychologue me semble absolument indispensable pour effacer la honte, la culpabilité et redonner enfin une image positive de soi. Sur Bourgoin-Jallieu, les femmes peuvent solliciter les psychologues du centre médico-psychologique.
Qui se trouve
dans le centre-ville de Bourgoin-Jallieu vers l'avenue Frédéric Dard.
D'accord.
Voilà, et puis il y a aussi un bureau d'aide aux victimes qui se situe à avenue du Tribunal à Bourgoin-Jallieu, où une psychologue peut recevoir des femmes victimes. Donc ce n'est pas ciblé femmes victimes de violences conjugales, mais toute forme de victimologie, ces femmes peuvent recevoir le soutien d'une psychologue.
D'accord.
Tout ceci est gratuit, bien sûr.
Donc il y a des structures. Où est-ce que l'on peut trouver toutes ces adresses? En mairie, on devrait pouvoir les avoir. Il y a des listes qui sont faites ou ça existe
Bien. Alors oui, la mairie de Bourgoin-Jallieu peut évidemment donner toutes ces informations. Je rebondis encore une fois de plus sur l'association ALPA qui, avec l'accueil de jour, concentre effectivement toutes ces données. Il y a également le Conseil général par le biais de la PMI qui regroupe toutes ces associations. Tous les professionnels du social, en fait, sont informés de tout ça.
Voilà, donc il faut s'adresser aux bonnes personnes surtout. Qu'est-ce qui explique, Cécile, que les hommes se comportent comme des goujats? Je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir répondre réellement.
C'est
mais
un vaste sujet, Valérie. Ouais,
je me lance dans une question un peu à laquelle moi, je n'ai pas réussi à répondre non plus, d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui explique que les hommes se comportent comme des goujats et que même les jeunes, parce que c'est ça, moi, qui m'attriste, je dirais, et qui me scandalise, c'est que même les jeunes ne respectent pas leurs partenaires ou les femmes dans les rues. Hein, on voit ce phénomène de plus en plus répandu de considérer, de mal parler à son amie, de la pousser, de la ridiculiser. Alors, d'où vient le phénomène? Parce que c'est pas toujours des jeunes qui ont vécu, qui ont eu une éducation qui n'était pas adaptée, parce qu'on peut remarquer aussi des jeunes qui ont vécu dans des familles bien sous tout rapport, qui ont bien été éduqués, qui aussi agissent de la sorte, notamment quand ils sont alcoolisés. Moi, j'en ai vu. Donc, c'est vrai qu'on... Pourquoi ça tourne comme ça? Pourquoi on en arrive à ça dans cette société?
Parce qu'on est toujours dans un modèle de société patriarcale. Nous sommes dans un pays latin, ne l'oublions pas. L'apprentissage, malgré tout, reste sexué. Les garçons, de par leur éducation, s'identifient au rôle de l'homme, de la force, de la domination. Dès la petite enfance, ils sont orientés souvent vers des comportements d'affirmation de soi, d'agressivité. Et à contrario, notre société prépare plus les filles à avoir un caractère plus souple, qui évite les conflits, qui a tendance à biaiser, en fait. Alors, moi, à titre personnel, je ne peux que saluer des initiatives comme le plan d'égalité filles-garçons à l'école.
Qui a fait beaucoup parler et couler beaucoup d'encre, soit dit en passant.
Oui, je pense que c'était l'intitulé qui faisait peur. Ça s'appelait la théorie du genre avant.
Oui, mais c'est quand même malheureux qu'à partir du moment où on veuille toucher, où on pointe du doigt la problématique... ça tout de suite, ça crée...
Je pense qu'il y a eu beaucoup d'incompréhension, mais que in fine, c'est la lutte. Voilà. Mais voilà, j'aimerais aussi beaucoup que les médias et surtout les publicitaires s'emparent de cette problématique afin de véhiculer des messages égalitaires et paritaires. Si on pouvait éviter d'avoir des publicités pour un savon sans avoir une dame toute nue sous la douche.
Mettez-nous des hommes, nous serons ravis de voir
voilà,
des hommes bien
ou
faits.
Dans l'électroménager, voilà, pour l'aspirateur.
Un homme qui passe l'aspirateur.
Madame passe l'aspirateur, voilà. Mais c'est vrai que les choses avancent et très récemment, je rappelle la promulgation d'un texte de loi donc en date du 4 août 2014.
C'est tout nouveau.
Ouais, qui aborde l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a plusieurs dispositions dans ce texte de loi. Donc, qui a été beaucoup médiatisé, c'est la réforme du congé parental qui permet donc à la femme et à l'homme, et non plus à la femme ou à l'homme, de prendre le congé parental suite à une maternité.
Ça, c'est comme l'échec, madame et monsieur, madame ou monsieur sur l'échec. Comme ça paraît très stupide, mais quand il y a des divorces, la personne peut se désolidariser du compte sans même que l'autre ne soit au courant. Alors, c'est ces petits mots coordinateurs qui sont des points de détail, mais qui font toute la différence.
Oui, tout à fait.
Donc, monsieur, vous aussi, vous pouvez prendre votre congé.
Et puis, aussi des dispositions concernant l'égalité salariale dans les entreprises, parce que malheureusement, les écarts de salaire... Donc maintenant, les entreprises de plus de 20 salariés seront pénalisées financièrement s'ils n'appliquent pas une stricte égalité salariale, à qualification égale, bien évidemment.
Oui, mais là encore, on sait bien que celui qui a de l'argent, de toute façon, il pourra toujours contrer, il paiera. C'est arrivé sur d'autres sujets on paye plutôt, n'est-ce pas?
Oui,
on paye
sûr.
Plutôt que de devoir le faire.
Absolument. Et puis autre chose, la garantie de paiement en cas d'impayé des pensions alimentaires. Donc malheureusement, il y a tellement de pensions alimentaires impayées. Donc avec maintenant un prélèvement à la source sur l'employeur ou alors la CAF qui avance l'argent à la femme et qui ensuite se retourne contre le mauvais payeur. Un mot aussi sur la généralisation du téléphone grand danger, donc ça très important dans notre thématique du jour. Le juge aux affaires familiales peut confier à une patiente qu'il estime une femme qu'il estime en danger mais qui n'a pas encore porté plainte, de lui confier un téléphone où elle n'a qu'une touche à sur laquelle appuyer pour appeler police et gendarmerie. Rappelons que souvent, les femmes n'ont pas de propre téléphone portable. Oui, voilà. Et ce téléphone grand danger était jusqu'à présent qu'à titre expérimental sur certains départements. Il a fait ses preuves, ça marche, ça fonctionne. Il est généralisé à toute la France.
Et donc ça, on s'adresse à qui pour le demander ?
Alors, c'est sur décision du juge aux affaires familiales. Ça passe par une... par des procédures juridiques, mais c'est sur une patiente qui a été signalée, qui est connue des services sociaux, mais qui, au jour d'aujourd'hui, n'a encore pas quitté le domicile conjugal.
D'accord.
Et puis, un autre sujet qui me tient aussi très à cœur et qui a été modifié par cette loi du 4 août 2014, c'est la suppression du terme « situation de détresse » dans la loi Veil, qui fête ses 40 ans, en cas d'IVG.
Et qu'on salue toujours.
Et qu'on salue, bien évidemment. La lutte contre les stéréotypes sexistes dans les médias, je viens d'en
parler.
Il y a encore un gros boulot à faire.
Il y a encore du travail.
L'interdiction des concours de beauté pour les enfants de moins de 16 ans
c'est une catastrophe.
Voilà.
Mais ça vient des États-Unis, c'est arrivé aussi.
Absolument.
De là-bas, et ça commence à prendre une ampleur importante en France. Oui. Mais mesdames, réalisez ce que vous faites faire à vos enfants, je vous en supplie.
Et puis enfin, des pénalités financières plus importantes en cas de non-respect de la parité. Alors, en politique, on en est bien loin, mais aussi dans les
fédérations. On dit qu'on y est, pourtant.
Pas du tout.
On dit, mais on est loin d'y être.
Pas du tout. Quand c'est imposé par la loi au niveau des communes, il y a une parité absolue parce que la loi l'impose. Mais par exemple, dans l'intercommunalité, je prends l'exemple de la CAPI, veuillez chercher le nombre de vice-présidents. Cherchez le nombre de vice-présidents de femmes et voilà, et vous comprendrez tout de suite. Mais aussi, la parité dans les fédérations sportives, dans les chambres de commerce et l'industrie, les conseils d'administration où les femmes sont aussi très peu représentées. Donc il y a des tas de dispositions qui sont mises en place suite à cette nouvelle loi que je salue.
Oui, c'est Naja Vallaud-Belkacem qui l'a promulguée. C'est bien d'avoir osé. Alors, on va se détendre un peu là, parce qu'on a dit beaucoup de choses très lourdes, c'est très angoissant tout cela. On va écouter maintenant sur Couleur FM 97.1, dans votre émission Tout Feu Tout Femme, Michel Polnareff, Love Me Please. Allez.
Toujours de mon pauvre amour. tant d'indifférence. Parfois j'ai envie de me fondre dans la nuit. Au matin je reprends confiance.
Piano de Polnareff qui nous emmène là vers magnifique. Un au-delà. Super. Bon, ça détend quand même. Hein. Cécile, on va rentrer dans le vif du sujet. Pouvez-vous nous parler aussi des enfants? Parce que là, en parlant de détente, c'est loupé. Hein. Les enfants sont des victimes collatérales et ainsi que la prise en charge des auteurs. Et c'est là encore un sujet dont on pourrait malheureusement parler des heures. Mais évoquons-le brièvement, si vous le voulez bien, parce que nous ne pouvons pas faire l'impasse sur la souffrance de ces petits bouts de choux qui n'ont rien demandé à personne. Hein.
Absolument. C'est vrai que ces violences sont à l'origine d'importants traumatismes sur les enfants qui en sont témoins. Ces enfants grandissent dans un climat d'insécurité et de terreur, et les conséquences sur leur santé physique, psychique ou encore leur socialisation sont importantes. On parle de syndrome post-traumatique chez les enfants. Rappelons aussi que 40 à 60% des hommes violents ont été témoins de violences dans leur propre enfance. Ce sont des chiffres, c'est un état de fait.
Voilà. On reproduit ce qu'on a déjà vécu bien souvent.
Après, si on a un petit espoir, c'est que ces enfants peuvent quand même être le moteur de la sortie de l'engrenage infernal de cette violence. Alors, soit en dénonçant les faits à une tierce personne, j'avais évoqué tout à l'heure les enseignants ou l'infirmière scolaire, soit en poussant leur maman dans un instinct de protection maternelle à entamer les démarches. Donc, ils peuvent aussi être moteurs. Mais c'est vrai que cette prise en charge est longue et difficile, car les auteurs, malgré la séparation, ont un droit de visite sur leur enfant. Ils ont l'autorité parentale conjointe. Et malheureusement, ils peuvent l'utiliser pour exercer une pression psychologique, voire des manipulations sur les enfants, toujours dans le même but de blesser la maman.
Et ça, c'est difficile de revenir sur des traumatismes psychologiques comme cela.
Bien sûr.
Parce que ça reste pendant longtemps quand même. Hein.
Tout à fait.
Donc, les enfants, encore une fois, les victimes de
collatérales.
Voilà. Alors, une petite information. Je rappelle qu'au Millennium, du 20 novembre au 19 décembre, vous pouvez voir l'exposition « Femmes, clichés qui sont pris par les Lilos » sous la houlette du photographe Georges Testu dans le cadre du parcours photographique « Regards croisés sur ma ville ». Ça peut être intéressant. Je vous propose aussi, ma proposition littéraire ce mois-ci. J'ai choisi un livre de Michel Marzano, philosophe italienne, qui est spécialiste de l'éthique du corps et de la sexualité et qui est professeur à l'université Paris-Descartes. Alors son livre, ça s'appelle « Légère comme un papillon ». Il a été édité en septembre 2013, il n'est pas d'aujourd'hui, mais je l'ai lu et je l'ai lu d'une traite. Je l'ai trouvé vraiment magnifique, très bien écrit, triste aussi bien sûr. Et ce livre traite du problème de l'anorexie. Qui est aussi une forme de violence qu'on se fait à soi-même.
Mais
il n'évoque pas particulièrement le thème de façon traditionnelle. Elle fait un autoportrait dans ce livre et elle explore deux pistes de façon donc plutôt philosophique. Hein. Elle aborde le thème de l'abandon, des relations père-fille et des exigences des parents envers leurs enfants, parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est pareil, l'exigence et tout ce qu'on demande à ses enfants, ça a aussi un impact sur eux. Et elle dit d'ailleurs, pour tenir à distance de désespoir, il faut ne pas vouloir sans cesse réparer le passé, ne pas chercher à gommer ses fêlures, se laisser bouleverser, accepter que des questions restent sans réponse. Et elle conclut par une superbe définition de l'amour, donner à autrui la possibilité d'être autre chose que ce qu'on attend de lui. Voilà, donc ça c'est un livre que je vous conseille. Alors Cécile, on est bientôt arrivé au terme de l'émission. Ce sujet pourrait bien sûr faire l'objet de plusieurs émissions et bien sûr nous reviendrons sur certains points que nous détaillerons dans d'autres émissions. Je vous remercie Cécile Morgan d'avoir participé à cette émission et de nous avoir donné beaucoup d'éléments nous permettant de mieux comprendre ce problème et de donner des pistes aux victimes qui bien souvent ne savent pas à quelle porte frapper. Cécile, est-ce que vous avez quelque chose à dire de plus? Est-ce que vous voulez nous rappeler des numéros, des adresses?
Bien sûr. Un rappel donc, de tout ce qui peut exister, des petites clés pour sortir de son isolement. Au niveau national, le numéro vert 3919, donc pour les femmes victimes de violences conjugales, numéro d'accueil et d'écoute. Le numéro de l'enfance en danger aussi, qui est le 119, qui est également un numéro vert pour aviser des enfants. Le 115 pour l'hébergement d'urgence. Donc ça, c'est au niveau national. Ce sont tous les trois sont des numéros verts et gratuits. Au niveau départemental, il existe des associations grenobloises spécialisées dans la prise en charge et l'accompagnement des femmes victimes de violences. Je cite Rialto, Solidarité Femmes, Milena, Après, sur Vienne, le CIDFF, le Centre d'information du droit des femmes et des familles, le Conseil général avec son service de protection maternelle infantile et d'aide sociale à l'enfance, sachant que le Conseil général a des antennes locales sur Bourgoin-Jallieu, avenue Frédéric Dard. Il existe également une association grenobloise qui s'appelle l'association Passible pour la prise en charge des auteurs de victimes de violences conjugales. Parce que là aussi, il y a un travail à faire, bien sûr, sur les auteurs. Souvent, la prise en charge n'est pas spontanée et découle d'une décision de justice. Et c'est une prise en charge qui, en général, s'articule autour de groupes de parole menés par des psychologues ou des psychothérapeutes.
Puis si la personne n'a pas envie, on ne peut rien faire contre, j'imagine.
Sauf sur décision de justice. Oui, enfin, personne ne peut participer au groupe de parole.
Ne rien vouloir changer, quoi. Voilà, c'est pas évident.
Et puis, le plus important, me semble-t-il, c'est au niveau local, sur Bourgoin-Jallieu. Donc je vais répéter des choses que j'ai déjà citées.
Il faut répéter pour que ça rentre dans la tête des gens.
Absolument. Donc l'accueil de jour, très important, voix d'aile de l'association ALPA, avenue des Alpes sur Bourgoin-Jallieu. Une association qui s'appelle Norisère aide aux victimes, qui se situe à côté du tribunal de grande instance, qui fait de l'accueil généralisé pour toutes les victimes, donc qui dispose d'une psychologue et d'une juriste. Les assistantes sociales du centre hospitalier Pierre Oudot, ne pas hésiter si on se rend aux urgences, de tirer la sonnette d'alarme. Le personnel est sensibilisé, il y a des assistantes sociales. Ne pas hésiter à les solliciter. Pour le logement, donc j'ai déjà cité l'association ALPA pour l'hébergement d'urgence, à savoir que le CCAS de la commune peut également, en cas d'extrême urgence, financer des nuitées d'hôtel si la dame doit partir très précipitamment.
Le CCAS qui se trouve place Charlie Chaplin à Bourgoin-Jallieu, en bas de la rue piétonne, pour le rappeler.
Pour la prise en charge psychologique des mamans et des enfants, le centre médico-psychologique pour enfants, il existe une maison des adolescents également sur Bourgoin-Jallieu, et puis tous nos partenaires relais avec des professionnels, le planning familial, évidemment. Il existe des associations, je pense au quartier de Champfleury, il y a une association toute nouvelle, une association de femmes pilotée par Madame Moumen qui peut aussi se faire relais, la maison des habitants, ce qu'on appelait les maisons de quartier. Voilà, il existe plein de solutions, vous n'êtes pas seul. Voilà, on est là, n'hésitez pas.
Eh bien Cécile, continuez votre combat parce que nous soutenons à Couleur
FM,
Valérie. En tous les cas moi, et nous serons ravis de vous recevoir de nouveau. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site http://www.couleur.fm.com dans la rubrique émission tout feu tout femme. Nous laisserons aussi des informations, les adresses à retenir, à garder précieusement en cas de besoin. On va essayer de trouver un petit peu de place pour cela, ou tout au moins de donner un lien qui puisse vous amener vers ces adresses. Mais vous pouvez donc nous écouter sur les ondes avec la diffusion le mardi à 21h, le samedi à 20h et le dimanche à 11h, les semaines paires pour l'émission Tout Feu Tout Flamme. Et puis je vous rappelle le principe de l'émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse mail à l'attention de Valérie et Véronique pour nous faire part de vos remarques, ou bien si vous souhaitez témoigner dans l'émission, ou tout simplement apporter vos connaissances sur les différents sujets abordés en participant à l'émission, vous serez les bienvenus. Contactez-nous, on prend le relais, on vous appelle et puis on voit ce que l'on peut faire. Donc notre adresse mail, toutfeutoutfemme, toutfeutoutfemme@couleur.fm. au pluriel, fm.fr. Merci pour votre écoute. J'espère que l'on apportera, j'espère que l'on aura apporté pour ces femmes quelques éléments de réponse pour celles qui souffrent de ces violences. Je l'espère un tant soit peu, même si ça sera certainement pas miraculeux, mais en tous les cas, ça le mérite d'être fait.
Voilà. C'est déjà parfait.
Bon courage à elles. Ne perdez pas courage, mesdames. Il y a toujours, toujours un ciel bleu à l'horizon. Regardez-le bien loin. Il arrive. Bonne semaine à tous. Merci encore, Cécile. Au plaisir de vous retrouver sur Couleur FM 97.1. Tout feu, tout femme, le magazine des femmes,
mais pas que,
sur Couleur FM 97.1 avec Véronique
et Valérie.
Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile.